Bonjour à tous, c'est une joie d'être là ce matin avec vous. J'aimerais remercier l'église de Toulon pour l'accueil à la fois généreux, chaleureux. Pour moi, je me sens quasiment en vacances quand je viens passer un week-end ici, même si je travaille un petit peu. Et c'était vraiment une joie d'être à Théopol hier. Je vais brancher mon chronomètre pour être sûr de pas tenir trop longtemps. Si je vois des gens qui baissent la tête et qui s'endorment, c'est que mon chronomètre est en panne. Je vous apporte les salutations des frères et sœurs de grâce. Merci pour votre accueil, que le Seigneur nous conduise maintenant dans sa parole, comme Luciano l'a dit, qu'il dispose nos cœurs et qu'il utilise ma bouche aussi pour sa gloire. Alors, comme la dernière fois, je vais profiter d'être ici à l'occasion de Théopol pour... En ayant apporté un enseignement sur les deux livres de Samuel. Ce matin, je vais faire un exercice un petit peu inhabituel. D'habitude, on lit un passage et on commente ce passage, et c'est une bonne manière d'apporter la parole de Dieu. Ce matin, on va faire un zoom arrière un petit peu sur la perspective, l'enseignement de ces deux livres de Samuel, qui sont des livres historiques de l'Ancien Testament, et des livres qui nous montrent de quelle manière les deux premiers rois d'Israël ont été mis en place. Et pourquoi y a-t-il eu deux rois ? Parce que Dieu nous enseigne à travers la vie de ces deux rois. Il y avait un roi selon le cœur des hommes qui était demandé par Israël en disant « Donne-nous un roi comme les autres peuples !» Et ils ont eu Saül. Un homme qui, comme me le disait Richard Becerra hier, on en discutait parce qu'il enseigne à Algrange sur ses livres notamment, c'est un homme qui a passé sa vie à avoir peur de ce que les autres pensaient de lui et à agir en fonction de ce que les autres pensaient de lui. Et puis un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui, malgré ses défauts, malgré ses faiblesses, a été agréable à Dieu et qui a passé sa vie à se préoccuper de ce que Dieu pensait de lui. Et vous voyez que dans les livres de Samuel, il y a un exemple et un contre-exemple. Un exemple qui pointe vers Jésus-Christ, le roi David, et un contre-exemple qui pointe dans la mauvaise direction. Vous voyez, la pédagogie de la Bible est extraordinaire. À tous les niveaux, elle nous enseigne, y compris dans la structure des livres. Et ce matin, donc, au lieu de vous lire un extrait et puis ensuite commenter cet extrait, je vais vous inviter à voyager entre les deux livres de 1 Samuel et de 2 Samuel. Donc, je vais prendre des extraits qui sont dans 1 Samuel 15, quand on va parler de Saül, et ensuite des extraits qui sont dans 2 Samuel 11 et 12. Alors désolé pour la gymnastique, il va falloir naviguer si vous voulez suivre dans vos Bibles, qui vont nous parler de David. Et en fait, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est David contre Saül, vraie et fausse repentance devant Dieu. On va voir que chacun de ces hommes, à un moment de sa vie, a été confronté par Dieu à son péché. Et quelle a été l'attitude de Saül ? Quelle a été l'attitude de David ? Une fois que Dieu a envoyé un serviteur pour leur dire « Tu as péché ». Premièrement, faute grave contre Dieu. Parce que la différence entre Saül et David, c'était pas un David qui n'a jamais péché, et un Saül qui a tout le temps péché, mais c'était deux hommes qui, dans leur vie, ont été confrontés à leur péché. En fait, le seul être humain dans toute l'histoire de l'humanité qui n'a jamais péché et qui a parfaitement accompli la loi de Dieu, eh bien, c'est Jésus-Christ. Tous les autres hommes ont un péché, et sans l'œuvre de Jésus-Christ, tous les hommes finiraient en enfer. Si Jésus-Christ n'était pas là, on aurait un Créateur, et qui sera le juge qui condamnerait tout le monde à la fin, parce qu'il n'y a pas de remède au péché. Il n'y aurait pas de remède au péché, mais gloire à Dieu en Jésus-Christ. Il nous offre un remède, et vous avez ce verset merveilleux là qui est collé sur chacun des murs, à ma droite et à ma gauche. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». En Jésus-Christ, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Et la colère de Dieu que nous méritions est tombée sur lui, si Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. Et la plus grande question que vous avez à vous poser dans toute votre vie, qu'un être humain a à se poser et à laquelle il doit répondre, c'est « Qui est Jésus-Christ pour toi ?» La réponse à cette question change tout. Alors, on va voir comment Saül réagit, mais avant ça, on va voir quelles sont les circonstances. Donc je vous lis dans 1 Samuel 15, je vais lire à partir du verset 1, mais parfois je vais sauter quelques phrases, parce que si on doit lire tout le chapitre 15, plus tout le chapitre 11 et le chapitre 12, on va être là encore à 14h et vous en aurez marre, vous allez me jeter des tomates. Donc on va 1 Samuel 15, je commence, mais de temps en temps, si je saute un peu plus loin, ne soyez pas surpris, c'est pas que je veux bafouer la parole de Dieu, mais je veux aller à l'essentiel. Pour Samuel dit à Saül, au verset 2, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frapper les Amalécites. Vouez à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Verset 5. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et plaça une embuscade dans la vallée. Verset 7. Saül porta des coups à Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui fait face à l'Égypte. Il captura Agag, roi d'Amalek, vivant, et il voua à la destruction tout le peuple en le faisant passer au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. Verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel. « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. » Saül, dans la description, dans ce qu'on vient de lire, au début on se dit c'est bon, Saül obéit, il fait, et c'est un ordre qui est dur, aller exterminer un peuple. Alors je ne vais pas développer cette question-là, on est parfois choqué hein, de la violence de ce qui se produit dans l'Ancien Testament, nous qui vivons dans une terre où la guerre n'existe pas, la guerre n'existe pas, donc pourquoi la Bible en parlerait-elle? La guerre est entre les pays, la guerre est entre à l'intérieur des pays, entre les classes sociales, entre les catégories de personnes, au sein des familles, au sein des couples et en nous-mêmes. La guerre, c'est une des conséquences du péché, parce que les êtres humains ont rejeté le Créateur et que la conséquence, quand on rejette le pivot de la création sur qui toute chose repose, c'est que la création est désaxée et que ça produit le contraire de la paix, la guerre. La source de la guerre en Ukraine, la source de la guerre à Gaza, vous savez où elle est? Elle est là. Elle est là. La solution de la guerre et du péché, c'est Jésus-Christ qui l'apporte, et il faut déjà que soit résolu le problème qui est dans le cœur de chacun. Et les êtres humains prennent le problème à l'envers, et ils veulent soigner les symptômes au lieu de soigner la cause. Ça ne marchera pas. Celui qui amènera la paix sur terre, c'est Jésus-Christ, lors de son retour dont a parlé Luciano. Saül, donc je ferme la parenthèse, lorsque dans l'Ancien Testament il y a des choses très dures, ce sont des préfigurations du jugement de Dieu. Sodome et Gomorre, la conquête de Canaan, c'est pas que ça plaise à Dieu d'exterminer les gens, c'est pour montrer, pour nous enseigner à travers l'histoire de l'Ancien Testament et de sa parole, ce qu'il va advenir des pécheurs qui sont non repentants, qui ne règlent pas le problème qu'ils ont avec leur Créateur tant qu'il est encore temps. Cette parole de Paul, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ceux qui ne prennent pas cette mise en garde au sérieux devront faire face non pas à un père, mais à un juge qui les condamnera parce que sa sainteté l'exige. Si Dieu faisait grâce aux pécheurs irrepentants, il ne serait pas juste ni bon. Alors, il y a cette sentence dramatique, mais qui est méritée, sur Amalek, qui a fait du mal à Israël et que Dieu veut punir. Parce qu'on ne s'en prend pas au peuple de Dieu à la légère, et que, la conséquence quand on s'en prend au peuple de Dieu et aux enfants de Dieu, c'est que la colère de Dieu s'amasse au-dessus de la tête des gens et qu'au bout d'un moment, cette colère rattrape parce que la rétribution appartient à Dieu. Dieu envoie Saül et lui dit, ben, tu dois exterminer ce peuple. Et Saül commence à obéir. Vous avez vu le début de la description. Il commence à obéir. Et puis, exterminer, c'est un peuple. Nous, on se dit, moi, honnêtement, voilà, une fois, quand j'étais jeune, j'ai assisté à, il y avait un de mes voisins qui a, un des voisins de mon beau-frère qui a tué un lapin. Vous savez, il donne un coup derrière la tête, il pend par les pieds, ça casse la nuque, il tire la peau, ça pisse le sang partout. Excusez-moi pour la description. Moi, j'ai commencé à tourner de l'œil, j'étais là, ah, ça sent le sang et tout. Mes ancêtres étaient agriculteurs, ça leur faisait pas peur, sans doute, de mettre à mort un animal. Mais nous, dans un contexte urbain, on a évolué de telle manière que faire du mal à un petit chat, c'est déjà un drame absolu. On s'est éloigné de la réalité de la terre, d'accord ? Et il y a des choses qui ne nous sont plus du tout familières. Là, on est en train de parler à des gars qui sont tous agriculteurs. Hein ? C'est pas des gens du 21e siècle qui vivent dans le confort avec les réseaux sociaux, machin chose. Quand ils font pas la guerre, ils sont en train de cultiver leur terre et le rapport aux animaux leur est familier. Et Dieu leur dit, vous devez tuer tous les animaux du pays. C'est comme si on vous dit, vous devez cambrioler une banque et vous allez brûler tous les billets. Ah là là, quel gâchis! Vous dites à des agriculteurs, il faut tuer tous les animaux. Mais on pourrait les garder pour nous plutôt que de les tuer. Pourquoi les tuer? C'est pas par pitié, hein, c'est pas parce qu'ils aiment bien les vidéos de petits chats sur YouTube, hein, qui tuent pas les bêtes. C'est de la richesse, c'est du temps, c'est vous demandez à des éleveurs et à des agriculteurs de massacrer des troupeaux en bonne santé. Ça leur semble absurde. On va plutôt les garder pour nous. Mais si Dieu demande de dévouer par interdit, demande de passer au fil de l'épée tout le pays, c'est parce que c'est quelque chose qui est un sacrifice qui lui est agréable, qui correspond à la sainteté de Dieu. Le péché doit disparaître et tout ce qui appartient au pécheur doit disparaître. Vous ne pouvez pas dire je prends une part du truc qui appartient au pécheur pour me la garder. C'est pas possible. Saül enfreint, désobéit à un commandement direct de Dieu. Au lieu d'obéir entièrement, il s'arrête en chemin parce qu'il cherche son propre intérêt. Et le peuple qui est avec lui aussi. Contrepoint chez David, 2 Samuel 11, je vais vous lire à partir du verset 2 quelques extraits. 2 Samuel, c'est un petit peu plus loin donc dans les livres de Samuel, au chapitre 11. Verset 2. Un soir, David se leva de son lit. Il se promenait sur le toit du palais royal. Il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam et femme d'Uri le Hittite ? David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Verset 14, David écrivit une lettre à Joab et la lui fit parvenir par l'intermédiaire d'Uri, c'est-à-dire le mari de cette femme. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat, puis reculez derrière lui afin qu'il soit frappé et meure. » Je survole rapidement un récit qui est plus détaillé, vous pourrez le découvrir dans la parole de Dieu, où David commet un double crime devant Dieu super grave. Un adultère, quand il s'est renseigné en disant qui est cette femme, on lui a dit c'est la femme de quelqu'un d'autre. Ça l'a pas empêché d'envoyer des serviteurs pour la prendre et coucher avec. Et quand ensuite son mari, qui était un de ses fidèles guerriers, il l'a rappelé en se disant tiens, je vais le faire aller vers sa femme, une sorte de permission déguisée, comme ça on se demandera pas pourquoi elle est enceinte alors que son mari était absent. Son mari est tellement fidèle qu'il dit comment, mais tous mes camarades sont au front en train de se battre et moi j'irai profiter de ma femme, il n'en est pas question, je vais rester dans la caserne et je rentrerai sur le front demain. Le gars est super fidèle. Et David lui fait porter un message qui va ordonner sa propre mort. Vous voyez la perversion extrême qu'il y a là? Comment David est empêtré dans son péché qui le conduit toujours plus loin vers quelque chose de pire en pire. Et finalement, quand on compare ces deux péchés, on pourrait se dire, il n'y a pas, aux yeux de Dieu, le péché est grave. Hein, je ne suis pas en train de dire, oh non, il y a un péché mignon, ou Dieu qui n'est pas important pour Dieu, etc. Même si quand même il y a des intensités différentes dans le péché est grave. Mais on pourrait presque dire finalement, le péché de Saül est moins grave que celui de David. David, délibérément, il a enfreint deux commandements extrêmement graves, qui normalement méritaient la mort dans la loi de Moïse, dictée par Dieu. Et la première réflexion pastorale que je veux vous soumettre, c'est quels sont les péchés qui, dans nos vies, comme Saül et comme David, nous font placer notre volonté au-dessus de l'obéissance à la parole de Dieu. Vous savez, la Bible, elle n'est pas là pour dire « regardez les autres comme ils sont nuls ». La Bible, elle n'est pas là pour dire, pour nous encourager à être antisémites, parce que pendant tout l'Ancien Testament, les Juifs sont désobéissants. Quand elle fait ça, elle pointe vers nos propres cœurs. Quels sont les péchés qui, dans votre vie, vous amènent, quels sont les défauts de votre caractère qui, dans votre vie, vous amènent à considérer vos intérêts et à les placer au-dessus de la parole de Dieu? Ne répondez pas trop vite, aucun. Examinez-vous vous-même devant la parole de Dieu, examinez votre visage et comme dit Jacques, mettez-vous à l'œuvre pour vous mettre en règle avec le Créateur. Si vous n'avez pas d'idée, demandez à vos proches, ils vont vous donner un coup de pouce pour savoir les trucs qu'il y a à régler dans vos vies. Hein ? Deuxièmement, réaction à l'interpellation de Dieu. Alors maintenant, on revient donc dans 1 Samuel 15 et on va voir ce qui se passe quand Saül est confronté à son péché. À partir du verset 13, donc 1 Samuel 15, Samuel se rendit vers Saül et Saül lui dit « Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. » Samuel dit « Qu'est-ce que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends ? » Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites. » Qui c'est le roi de Il, mon gars ? Qui est le responsable de Il ? Bon, « Ils les ont amenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. » Il y a beaucoup de problèmes dans la façon dont Saül présente les choses. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. Samuel dit, verset 17, verset 19, « Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve ?» Saül répondit à Samuel, « J'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. » J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction, mais le peuple, c'est toujours les autres, hein, a pris sur le butin les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, qui devaient être consacrés afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Verset 24, alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, pas trop tôt, y arriver mon gars, il faut du temps, il faut le travailler au corps pour qu'il... Il admet, hein, verset 24, « Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur du peuple. » Vous voyez ce que me soulignait Richard, c'est tout à fait pertinent. Saül, il passe son temps à avoir peur de ce que pensent les autres, au lieu de se préoccuper de ce que pense Dieu. « Et je l'ai écouté. Maintenant, je t'en prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel. » Et on se dit, ah ouais, super, il se repent quand même. Mais non, en fait, regardez pourquoi il veut. Verset 30, Saül répéta, j'ai péché maintenant, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. Si Saül finit par se repentir, et pas parce qu'il a conscience de l'horreur de son péché, c'est parce qu'il a un intérêt politique. Si Samuel se désolidarise de Saül, ça va lui porter préjudice dans son autorité auprès du peuple. Le gars, il faut le travailler avec une lampe dans les yeux et en lui disant « Mais qu'est-ce que t'as fait ? On t'a dit tu détruis tout, t'as pris les meilleurs trucs, c'est pas toi le coupable. » Il est là en train de dire « C'est les autres, c'est pas moi, j'ai eu peur, ils m'ont poussé, c'est pour faire le bien. » Mais qu'est-ce que tu comprends pas dans « Il faut tout dévouer par interdit, tout ». C'est quoi le mot que tu comprends pas dans la phrase ? Et voyez, ça ressemble étrangement à Adam. Vous savez, Adam? Quand Dieu vient vers lui en disant, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais dit de ne pas manger? La femme que tu as mise à mes côtés m'en a donné et j'ai mangé. Autrement dit, Adam, là, ça y est, la première bouchée du fruit, il est déjà en train de fuir ses responsabilités et d'accuser. Il y a deux coupables dans la bouche d'Adam, Ève et Dieu. Mais lui, non. Saül, c'est bien un fils d'Adam, mais nous aussi, on est comme ça. Honnêtement, si on vous confronte à votre péché, combien de temps il vous faut pour dire c'est vrai? Moi, j'aime bien argumenter, et mon réflexe naturel, c'est de chercher de bonnes excuses, parce que oui, mais c'est pas moi, c'est les autres, c'est machin, c'est truc, c'est les circonstances. Mais non, mon gars, arrête de jouer les Saül. Tu as péché. Repens-toi. Ce qui est agréable à Dieu, c'est qu'on obéisse à sa parole. Mais si on n'obéit pas, n'essaye pas de négocier pour expliquer à Dieu que tu n'es pas si mauvais que ça. Il a fallu que Christ meure sur la croix pour que nous soyons sauvés. Vous trouvez que c'est pas grave? Saül essaye de négocier avec l'interpellation pour démontrer qu'il n'a pas vraiment péché contre Dieu. Et quand il reconnaît enfin son péché, c'est pour négocier le soutien de Samuel à sa propre autorité. Quelle tristesse. Vous savez, je crois qu'avec l'habitude, on oublie de considérer la gravité de notre péché. C'est pas si grave, nos péchés. Le péché qui nous gêne, c'est le péché des autres. Ah oui, le péché des autres, Seigneur, si tu pouvais régler le péché de ma voisine, de mon voisin, qui me casse les pieds, que j'ai du mal à supporter, mais le nôtre, finalement, il nous fait du mal, mais on vit bien avec. Parfois même on l'aime, notre péché. On devrait pleurer sur notre péché, se repentir, chaque semaine, peut-être chaque jour. Est-ce que parfois, nous aussi, nous n'essayons pas de négocier la gravité de notre péché au lieu de nous repentir sincèrement et de confesser nos fautes sans réserve? Lorsque nous avons fait quelque chose de mal et dont nous ne sommes pas fiers, le premier réflexe, c'est d'atténuer la gravité de ce que nous avons fait en présentant les choses à notre manière pour nous donner le beau rôle. Mais en fait, on n'est pas en train d'acheter un tapis et de négocier son prix. Il s'agit de la justice de Dieu qui nous dit dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et comment on a la vie éternelle? En se repentant de ses fautes, parce que le Saint-Esprit nous a convaincus de notre péché et de sa gravité, en fléchissant les genoux au pied de la croix, en demandant pardon. C'est pas en négociant nos fautes qu'on est sauvé par Dieu. Personne ne va entrer au ciel parce qu'il aura bien argumenté devant Dieu en disant « mon péché n'est pas si grave ». Tant que j'essaye de négocier la gravité de mon péché, je fais obstacle à la grâce de Dieu. Soit comme un non-croyant endurci qui va être confronté à la justice de Dieu et qui va le conduire en enfer, soit comme un chrétien infidèle qui ira au ciel. Parce que Dieu est fidèle même si nous sommes infidèles, si on est réellement enfant de Dieu, né de nouveau. Mais ne croyez pas qu'une fois qu'on est converti, on est plus sensible au fait de négocier la gravité de notre péché et parfois on peut mettre notre sanctification, notre vie chrétienne en pause et arrêter de progresser dans la bonne direction parce qu'on trouve que nos péchés ne sont pas si graves. Et j'ai la tristesse de constater parfois parmi les gens de mon assemblée ou dans ma propre vie des moments de vie où les chrétiens bloquent leur sanctification parce qu'ils sont arrêtés par leurs propres péchés qu'ils ne veulent pas remettre à Christ. La grâce de Dieu est là, mais ils s'en privent parce qu'ils ne veulent pas abandonner la médisance, l'orgueil, la colère, le mensonge. Vous savez, ces péchés qu'on arrive bien à masquer avec une façade chrétienne, mais qui sont là et qui pourrissent nos vies et celles de nos proches. L'attitude de David confronté à son péché, verset 9 de 2 Samuel 12. Nathan vient le voir, je vous passe tous les détails, il le démasque, il lui raconte une petite parabole pour l'amener à considérer que David a fait un péché grave. Et au verset 9, donc de 2 Samuel 12, « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux ?» C'est l'Éternel qui parle, hein. Tu as tué par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme, et lui, tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites ?» Réponse de David. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » David, il est confronté à son péché, il est démasqué. Il n'est pas en train de négocier en disant, « Oui, mais tu sais, Bathsheba l'a bien cherché quand même. » Aller faire sa toilette sur le toit de sa maison, en face de mon balcon, comment tu voulais que je résiste, machin, etc. On aurait pu trouver hein, plein d'excuses. J'ai péché contre l'Éternel. Négocie rien du tout. Il est démasqué, il fléchit les genoux, il confesse ses fautes. Il confesse son péché. Il confesse immédiatement. Alors on pourrait se dire, c'est un peu court. J'ai péché contre l'Éternel, t'as commis un adultère, un meurtre, mon gars, j'ai péché contre l'Éternel, c'est tout, t'as rien d'autre à dire. Si, si, il a plein d'autres choses à dire. Il a écrit un psaume magnifique qui parle de la repentance et de la grâce de Dieu, qui est le psaume 51. Un psaume que tout Israël a pu lire et a sans doute chanté pendant des moments de culte qui parlaient, parce que l'introduction du psaume dit que c'est David qui l'a composé dans l'affaire de Bathsheba. Je vous en lis quelques versets. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, c'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, etc. David est en train de décrire la grâce de Dieu qui saisit le pécheur par le Saint-Esprit, qui nous conduit repentant au pied de la croix. C'est Dieu qui accomplit notre salut. C'est lui qui efface notre péché. Est-ce que vous croyez qu'on a mérité 1% du salut, 1% de la vie éternelle? On n'a mérité rien du tout. On était morts par nos offenses, dit Éphésiens 2. Et c'est Dieu qui enlève notre cœur de pierre et nous donne un cœur de chair. Qui nous amène à pleurer sur notre propre péché. Il n'y a pas de conversion authentique, il n'y a pas de foi chrétienne authentique sans une repentance authentique qui correspond à celle que David décrit pour lui-même. Vous vous rendez compte que David, il a écrit ça il y a 3000 ans, 1000 ans avant la mort de Christ sur la croix. Il est en train, par le Saint-Esprit, de nous décrire la grâce de Dieu qui va être ouverte, accomplie, possible par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les croyants de l'Ancien Testament, par anticipation, sont déjà sauvés par les mérites de la croix de Jésus-Christ. Il y a un effet rétroactif de la croix. Hein. Il n'y a pas que les chrétiens du Nouveau Testament qui sont sauvés par la croix, aussi ceux de l'Ancien Testament, Adam et Ève, ils sont aussi sauvés parce que Christ a payé pour eux. David confesse sa culpabilité devant Dieu sans restriction. Il montre aussi que le pardon du pécheur dépend entièrement de la grâce de Dieu. Des fois, quand on est chrétien, on se dit, quand même, j'ai fait du bien, hein. C'est normal que Dieu me sauve. Je suis quelqu'un de formidable. C'est Satan qui nous souffle ça. Rien dans nos vies ne mérite qu'on soit sauvé. Rien du tout. Tous les mérites sont en Jésus-Christ. Si vous pensez que vous avez mérité même une fraction de la vie éternelle, vous vous trompez gravement, vous êtes en train de voler la gloire de Christ pour vous l'attribuer. C'est malheureusement ce que font les catholiques avec la doctrine du purgatoire. et des œuvres soi-disant surnuméraires de l'Église qu'on peut distribuer aux gens qui en auraient pas assez, machin. Et si t'as pas été assez sage dans ta vie, voilà, Christ a payé pour 80% de tes péchés, mais les 20%, il faut l'expier toi-même. Si tu devais expier ne serait-ce qu'1% de tes péchés, tu serais en enfer pour l'éternité. Christ seul a payé le prix du péché. Problème. On peut être chrétien et bloquer dans notre vie une confession ou une repentance que Dieu attend de nous par une sorte de négociation à la cellule en disant du genre, c'est pas si grave. C'est pas si grave mon péché. Personne ne le voit, je suis juste sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu le voit. David, comme Abraham, comme Moïse, n'est pas un homme sans péché, mais c'est un homme qui a persévéré dans la foi, malgré ses erreurs, en dépendant de la grâce de Dieu. C'est pourquoi il est un modèle pour nous et qu'il fait partie des héros de la foi qui sont nommés dans Hébreux 11. Quelle est la sentence de Dieu contre Saül? Eh bien, la sentence de Dieu contre Saül, c'est « Je te rejette puisque tu n'as pas respecté ma parole ». Tu voulais m'offrir des sacrifices, mais moi, ce que j'apprécie, c'est quelqu'un qui obéisse et pas quelqu'un qui m'offre des sacrifices en continuant de faire ce qui lui plaît à lui sans écouter ma parole. Et dans la vie de David, il va y avoir des conséquences à son péché. Mais David échappe à la mort parce qu'il a confessé ses fautes. De la même manière que nous échappons à la mort parce que si nous sommes enfants de Dieu, nous avons confessé nos fautes et c'est Christ qui a payé à notre place. Ça ne veut pas dire que dans nos vies, il ne peut pas y avoir des conséquences à notre péché, mais la conséquence ultime, elle est tombée sur Christ. Et au jour du jugement dernier, il faudra rendre compte de ce que nous aurons fait en tant qu'enfants de Dieu, mais on n'aura pas à porter des mérites personnels qui nous vaudront la vie éternelle, parce que ça, c'est Christ. C'est Christ qui nous ouvre. C'est pour ça qu'il dit « Je suis la porte ». Une fois qu'on passe par Christ, on a la vie éternelle. La vie éternelle, si vous êtes enfant de Dieu, elle a commencé le jour où le Seigneur vous a ressuscité, a enlevé votre cœur de pierre, où le Saint-Esprit vous a conduit repentant au pied de la croix. Si vous ne l'avez pas fait, je vous en supplie, faites-le sans tarder. Et si on est enfant de Dieu, régulièrement, demandons pardon à Dieu pour nos offenses. Conclusion. Par ces textes, Dieu souligne l'importance de la repentance du pécheur dans la perspective de son pardon. Parce que nous dit Pierre dans 1 Pierre 5:5 et Jacques reprend quasiment les mêmes termes. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Personne ne va rentrer dans l'éternité du haut de sa propre importance. La seule personne importante qui peut rentrer dans la nouvelle création, la tête haute, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il nous ouvre l'entrée dans la nouvelle création, dans le royaume de Dieu. Et nous, nous entrons parce que nous avons fléchi les genoux volontairement devant le Fils de Dieu, parce que le Seigneur a produit dans notre cœur cette humilité par son esprit qui nous fait reconnaître qui est Jésus-Christ. Philippiens 2 nous dit que tout genou va fléchir quand Jésus va revenir et toute langue va confesser que Jésus a été fait Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout le monde va fléchir les genoux, même Satan, même les démons. Personne ne va pouvoir rester debout quand Jésus va revenir dans sa gloire. Mais nous, le Seigneur nous a fait la grâce de fléchir les genoux volontairement à l'avance. Nous, on va être heureux de fléchir les genoux. On ne fera pas partie de ceux qui sont forcés de fléchir les genoux. Prenons le temps de nous inspirer de l'attitude de David afin de ne pas tomber dans le panneau de vouloir minimiser la gravité de notre péché comme Saül. Ce n'est pas la bonne manière de se repentir. Vous savez, le bienfait et la paix qui remplit le cœur d'un chrétien, d'une chrétienne qui se repent de ses fautes, c'est incroyable. C'est incroyable. On ne peut pas être dans une paix profonde si on négocie notre péché avec Dieu. On se prive de cette paix que Christ veut donner à ses enfants. Humilions-nous plutôt sous la puissante main de Dieu et il nous bénira et il nous élèvera au temps convenable. Prière. Notre Dieu, notre Père, donne-nous de comprendre l'enseignement de ta parole où tu nous appelles à nous repentir sans aucune réserve. Seigneur Jésus, Merci pour ton intercession fidèle devant le Père pour nous. Aide-nous à ne pas mal user de ta grâce envers nous en bafouant ta sainteté, en négociant notre péché. Donne-nous un cœur repentant et sincère, et merci pour ta paix et ta joie en retour. Je te prie pour mes frères et sœurs qui sont là ce matin et pour chacun d'entre nous, afin que ta paix et ta joie règnent au fond des cœurs, quelles que soient les tempêtes qui peuvent exister dans les vies. Au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de Dieu, nous te prions. Amen.